Tu as fait graphisme automatique.
Ah, automatique. Je sais.
Ça va peut être salé pour les gens.
Bien, alors on va parler de Bilam, en fait. On va parler aussi de Balak. La spécificité de cette paracha de Bilam, comme vous savez probablement, c'est que c'est une paracha qu'a priori on n'avait pas à connaître. Tout ce qui s'est dit dans la paracha de Balak sont des choses qui sont entre Balak et Bilam. Les Juifs n'étaient pas au courant de ce qui se tramait entre ces deux riolos-là. C'est marqué que Moshe Rabbeinu katav sifro au parashat Bilam, au parashat Balak. Kadosh Baruch Hu a dévoilé à Moshe Rabbeinu pour qu'il l'écrive dans la Torah, cette parasha. Mais c'est la parasha de la Torah, à partir du moment où Moshe Rabbeinu était dans ce monde, ben il était présent à toutes les parashiotes de la Torah, sauf sa mort. Mais ça, c'est l'exception. C'est une parasha dans laquelle Moshe Rabbeinu, il était vivant à ce moment-là, mais il n'est pas au courant du tout, lui non plus, de tout ce qui se joue entre Balak et Bilam. Donc ça nous enseigne en quelque sorte qu'il se joue, un peu comme on dit, dans les chancelleries, des choses dont nous n'avons absolument aucune idée. Les Israël ont été préservés des intentions mauvaises de Balak et Bilam, mais ils n'en ont rien su. Jusqu'à ce qu'Hachem donne la paracha à Moshe Rabbeinu, on n'a rien vu, il n'y avait aucune bulle, il ne s'est rien passé. Ça n'a pas transpiré du tout. Donc c'est une paracha de ce point de vue-là tout à fait spéciale. Vayar Balak ben Tzippor. Alors Balak c'est le roi, son nom, prénom Balak et le nom de famille Ben Tzippor. Bon, Ben Tzippor, a priori, c'est le fils de l'oiseau. Il a vu quelque chose. Alors comme toujours, le Midrash part avec un pasouk qui est ou dans Michelé ou dans Tehilim. Ici, il part avec un pasouk dans Dvarim aussi. זה שאמר הכתוב, עצור, תמים פעלו, ככל דרכיו משפט. C'est un pasuk dans Haazinu. Atsur, c'est un nom divin, le rocher. C'est une dénomination qui indique Hachem. Tamim pa'alo. Tamim, ça veut dire entier, parfait. Pa'alo, c'est son action. Son action est parfaite. Kichol drachav, car toutes ses voies sont mishpat, sont justice. Donc c'est un pasuk qui dit, en gros, c'est, sans entrer dans le détail pour l'instant, qui dit que Hachem mène le monde de façon parfaite, selon les règles de la justice. C'est à ce titre-là, לא הניח הקדוש ברוך הוא לעובדי כוכבים פתחון פה לעתיד לבוא, לומר שאתה ריחקתנו. השם n'a pas laissé aux idolâtres l'argument, c'est toi, Hachem, qui nous a éloignés. Et pour ce faire, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, de la même manière qu'il a donné des rois, des sages et des prophètes à Israël, כך העמיד לעובדי כוכבים, il a fait de même avec les idolâtres. העמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל הארץ. Hachem a donné au clan d'Israël le roi Shlomo, le roi sur Israël et sur la terre, renassa le Nebuchadnezzar. Il a fait de même pour Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait l'un et l'autre? Eh bien, Shlomo Ze Bana Bet Amigdash. Celui-là, il a construit le Bet Amigdash. Ve'amar Kama Renanot Vetachanunim. Et il a dit de nombreuses suppliques et prières. Veze Irchivo, et l'autre, Nebuchadnezzar, il a détruit ce Beth Amikdash. Vecherev Vigidev, et il a blasphémé. Ve'amar, et lui, il a dit, Elé al Bamote Av. Je monterai sur les nuages, sur les nuées. Nathan le David, Osher, il a donné à David la richesse. Qu'est-ce qu'il en a fait de sa richesse, David? La Kachaba et Lishmo. Il a acheté l'emplacement du Beth Amikdash. Venatan le Haman Osher. Et il a donné la richesse à Haman. Velakach Uma Shlema le Tovcha. Et il a pris un peuple tout entier pour le tuer. Kol Gdula Shenatlu Israël Atmotse Shenatlu Haumot. Toutes les grandeurs que les Bnei Israël ont prises, tu trouves que les peuples les ont prises également. Kayot Seba, de la même manière, Emid Moshe et Israël, Kadosh Baruch Hu a fait tenir, si on peut parler comme ça, Moshe dans le cas d'Israël, pour Israël, ou Bilam le Ovde Kochavim, et Bilam pour les idolâtres. Regarde, ma ben nevié Israël, l'invié Ovde Kochavim. Regarde la différence entre les prophètes d'Israël et les prophètes des idolâtres. Nevié Israël, Assyrie est Israël mina averot. Les prophètes d'Israël mettent les Bnei Israël en garde contre les averot, contre les fautes. Chez Neymar, on voit dans le Navi Yecheskel, Ve'ata ben Adam, et toi, fils de l'homme, Sophé l'étaticha. Je t'ai donné comme Tsofé. Tsofé, c'est un éclaireur, c'est quelqu'un qui voit de loin. C'est aussi un prophète. Venavi, donc. Venavi, shiamad minagoim, hemid pirza, la belle et abriot minaolam. Et le prophète qu'il a donné, venant des goïm, il a fait une brèche pour que se perdent les créatures, que les créatures littéralement se perdent du monde. Je traduis comme ça grossièrement. Velo od, et pas seulement ça, et là, chez Kolanvi, Mayu, Bemidat, Rachamim, à l'Israël, Ve'alov de Kochavim. Tous les prophètes fonctionnaient sur la mesure de tendresse, tant pour Israël que pour les idolâtres. Chez Ken Yirmiya, Omer, par exemple, Yirmiya dit, Libi le Moav, Kachalalim Yehemé. Mon cœur, pour Moav, il est complètement bouleversé en quelque sorte. Et Yecheskel dit, Ve'ata ben Adam, sa al-tsur kina. Et toi, ben Adam, dis une kina, c'est-à-dire une élégie sur Tsor. Tsor, c'est une ville. Et cet autre prophète, Bilam, Achzari, il est cruel. Amad, l'akor umash lema. Chinam, allodava. Il vient pour arracher un peuple tout entier. Gratuitement, pour eux, sans raison. Le kach nirteva parashat Bilam. C'est pour ça que cette parashat Bilam, elle a été écrite. Le hodi à lama silek akadosh baruchu, ruach hakodesh, me ovde kochavim. Pourquoi akadosh baruchu a enlevé l'inspiration de ruach hakodesh, la prophétie de Goïm? Je sais amad mehem, ureima asa. Parce que celui-là, Bilam, il est issu d'eux. Je regarde ce qu'il a fait. Voilà ce premier paragraphe de. Donc, en un mot, qu'est-ce que le Midrash est en train de nous dire? Il est en train de justifier, à la fin, justifier le fait qu'il n'y ait plus de prophètes chez les Goïm, chez les hommes de Kohavim, les idolâtres, après Bilam. Mais en passant, on a vu que Bilam était posé comme l'alter ego de Moshe Rabbeinu. Que Nebuchadnezzar est posé comme l'alter ego de Shlomo HaMelech. Et pour David, son alter ego, si on peut parler comme ça, c'est Aman. Intéressant, le Shlomo, c'est la puissance. Royauté extrêmement puissante. Et curieusement, chez David, ce que le Midrash a mis en évidence, c'est sa richesse. Qu'est-ce que ce Midrash nous enseigne de particulier? On voit que le problème qui est posé dans ce premier paragraphe de Midrash, c'est le problème de la justice. C'est le problème de ce qu'Hachem a donné au Bnei Israël. Et il fallait que les Umot HaOlam ne puissent pas invoquer l'argument de l'injustice en disant « Si nous on n'a pas réussi à être bien, c'est que tu nous as éloignés. » Et donc Hachem, pour que cet argument ne soit pas valable, alors Hachem leur a donné ce qu'il a donné au Bnei Israël. Il a donné des chefs, en fait. Ce sont des hommes, n'est-ce pas? On pourrait dire, oui, mais Hachem, il a ouvert la mer pour les Bnei Israël, il ne l'a pas ouverte pour les Umot HaOlam. Pardon?
Ils n'auraient pas fait les fautes qu'ils ont faites. Ils n'ont pas fait fauter, en fait, les peuples comme ils ont fait fauter. pouvoir qui leur a été conféré,
oui.
Et qui a ouvert, qui leur a en même temps donné des, un pouvoir de diffusion dans leur chez les peuples.
Enfin, l'accent, il n'est pas tellement mis sur le... Sur, justement, c'est un peu curieux même, parce que l'accent n'est pas mis sur, le, sur, ce, sur leur pouvoir d'entraînement des peuples sur le mauvais chemin. L'accent est mis ici sur leur conduite personnelle, comme roi, comme prophète, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'on leur a donné à eux, à ces personnages? Que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Aman, Bilam, de façon générale, les prophètes des Umot HaOlam, l'accent est mis sur le fait que eux, ils n'ont pas utilisé pour le bien ce qui leur avait été donné. Ils se sont ou bien enorgueillis, ou bien ils ont voulu faire du mal, ou les deux en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont pu faire, en réalité, c'est uniquement parce qu'ils ont, en quelque sorte, oublié, ils ont oublié que les choses, ce qu'ils avaient, leur étaient données. Ils ont oublié que c'est Hachem qui leur donne ce qu'il leur donne. Mais ça, hein, on pourrait dire, c'est pas vrai, c'est pas complètement vrai chez Bilam. Chez Bilam, il faudra qu'on aille y voir d'un peu plus près. Le Nebuchadnezzar, Hachem, c'est marqué dans la Gemara que Hachem en a voulu au Klal Israël. Et il dit, à cause de vous, j'ai dû me mettre au service de Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, c'était un roi de lait. Et j'ai dû en faire un empereur parce que le Beth Amikdash ne pouvait pas tomber aux mains d'un roi de lait. Il fallait que ça soit une puissance. Et donc j'ai dû, dit Hachem, j'ai dû élever moi-même Nebuchadnezzar au rang d'empereur. Parce que vous m'avez obligé, en fait, à faire détruire le Beth Amikdash, et je ne pouvais pas le faire détruire par n'importe quel roi de lait, pas le cabot, quoi. Il fallait que ça soit au moins un empereur. Voilà ce que ça aurait été ensuite, par, que ça soit les Titus ou quelqu'un qui est empereur ou à la veille de l'être. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié tout ce que Hachem l'avait porté, en fait. On pourrait dire par opposition à, par exemple, ce que Chazal rapporte d'Alexandre le Grand. Et quand Alexandre le Grand a rencontré Shimon HaTzadik, et qui s'est prosterné devant lui, et il a expliqué, il a dit, mais c'est son image, c'est cette image-là qui me guidait dans mes batailles. Donc lui, au moins, disons, Alexandre le Grand, c'est probablement pour ça que les Bnei Israël ont pris son nom. C'est devenu quasiment un nom juif, Alexandre. A priori, personne ne s'appelle Titus chez nous, je veux dire.
Oui. Non, mais j'ai vu au British Museum, il y a le discours, en fait, d'inauguration d'antan prononcé par lui.
Mm-hmm.
Et c'est très bizarre parce que il y a des moments où il dit je remercie Dieu, etc., comme ce pourrait être un texte juif 100%.
Mm-hmm.
Et puis juste après, il rappelle quand même que c'est lui, plus ou moins Dieu.
C'est ça.
Et ça passe de l'un à l'autre constamment.
Ah, voilà. C'est ce que Razal dit, il s'est pris pour Dieu, mais de temps en temps, il se rappelle qu'il ne l'est pas vraiment. Qui dit je vais monter sur les nuages et je serai Dieu, quoi. Je serai au-dessus des nuées, je veux dire.
Il faudrait
Est-ce qu'on peut dire qu'un caporal de la Reichswehr a dû être élevé au poste suprême en Allemagne?
Oui, oui, c'est la même chose. C'est intéressant parce que ça n'est pas dit, par exemple, sur Titus ou sur... on n'explique même pas, il y a une fameuse Gemara qui parle de... C'est Domitien, je crois, qui était... la Gemara dit qu'il était, je ne sais pas, gardien de cochon, je ne sais pas quoi, il y a les petits-enfants juifs qui se moquaient de lui. Et ensuite, quand il est devenu empereur... je ne sais pas par qui il a été adopté, il est devenu empereur et il a commencé les tsarot au Bnei Israël, il les a convoqués, il a dit, nous on s'est attaqué à un petit gosse, on était des gosses, on s'est attaqué à un gosse, maintenant tu nous en veux maintenant. Mais là il n'est pas dit que c'est Hachem qui a pris Domitien et qu'il a monté jusqu'à devenir empereur, etc. C'était un empereur Domitien, oui.
Oui, oui. Il est
Baudelaire
encore qui reste.
Pardon?
Il n'a pas
allé
en Bulgarie.
Encore une fois, il est?
Il y a encore son palais à Durazzo.
Ah, d'accord. Bien. Alors on est sauvé. Ouais, d'accord. Alors, là-bas, c'est pas marqué, par exemple. C'est marqué, vraiment, je connais ça seulement sur Nebuchadnezzar. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, mais disons, c'est très connu sur Nebuchadnezzar. Mais chez Bilam, par exemple, on peut difficilement dire qu'il a oublié, parce qu'il n'arrête pas de dire. Il n'arrête pas de dire à ceux qui viennent chez lui, il n'arrête pas de leur dire, mais moi, je ne pourrais rien faire si Hachem ne me permet pas. Seulement après, il se raconte des histoires, mais peut-être qu'Hachem, il n'a pas vraiment vu, et peut-être que je pourrais quand même passer par-dessus, oui, je trouverais bien une faille pour faire quand même ce que je veux faire, même si Hachem m'a dit de ne pas le faire. Après, quand ça ne marche pas, il dit, mais qu'est-ce que tu voulais de moi? Je t'ai dit tout de suite que je ne pouvais rien faire, si Hachem. Et pourtant, ici, il est présenté comme quelqu'un qui... Bon, il a voulu être au Caire, c'est vrai qu'il a voulu, mais il n'a rien pu faire. Hachem ne l'a pas laissé faire. Bon, on verra après qu'il y a tout un problème, parce que lui, ce qu'il a dit, c'était des brachot. Il voulait dire des clalotes. Hachem lui a mis dans la bouche un système d'inversion de signes, quoi, quelque part. Et donc si on veut savoir ce qu'il voulait dire, il suffit de prendre le négatif de ce qu'il a dit. Mais Chazal dit que presque tout ce qu'il a dit, finalement, s'est réalisé pour les Bnei Israël sous l'aspect négatif. C'est-à-dire, il l'a dit en positif et finalement, ce qu'il voulait dire, s'est finalement réalisé chez les Bnei Israël. C'est peut-être ça qu'on veut dire, que c'était son projet. C'est important de savoir que c'était son projet, d'être au Caire, au Machlema, de vouloir arracher déraciner littéralement un peuple tout entier. Bon, ça, je pense que c'est un chapitre introductif. Pour mettre les choses en place, ici, il s'agit de voir que c'est au titre de la justice. Alors maintenant, il y a toujours cette idée qu'on avait vue aussi au sujet d'Abraham Avinu. Pourquoi est-ce que ce problème de la justice, il est présenté toujours sous la forme pour que les goïms ne puissent pas argumenter? Ça ne marche pas que s'ils ne peuvent pas argumenter, s'ils ne pouvaient pas argumenter mais qu'on les fait, Hachem, ça ne le dérange pas de faire cette injustice en tant que telle. Elle n'est pas présentée comme une injustice au sens absolu du terme. Elle est présentée comme une injustice parce que c'est un argument d'injustice que pourraient invoquer les Umot HaOlam à la fin de l'histoire. C'est la même question que celle qu'on pose traditionnellement sur quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, demande s'il te plaît au Bnei Israël d'emprunter, etc., pour que chez Lo Yomar Otot Tzadik, qu'Abraham ne puisse pas dire que j'ai accompli la première partie de la promesse que j'avais faite, à savoir que sa descendance serait esclave en Égypte, et que, esclave, c'est même pas dit en Égypte, esclave, et qu'il serait réduit en esclavage. Et la deuxième partie, Va'acharechen Yetzu Bichush Gadol, je ne l'ai pas accompli. Ils sortiront avec un grand butin, je ne l'ai pas accompli. Donc, s'il te plaît, demande pour que les Bnei Israël aient un butin. Alors le Gaon et d'autres demandent, quoi, si Otto Tzadik ne dit rien, si Abraham ne dit rien, Hachem n'est pas tenu de tenir sa promesse. Pourquoi est-ce que c'est présenté comme pour que Abraham ne puisse pas dire? S'il te plaît, j'ai promis, donc à la limite, il faut que je le fasse. Le Gaon dit que, comme ça vous connaissez, j'ai déjà peut-être raconté ça, le Gaon explique qu'en vérité, c'est uniquement pour que Abraham ne le dise pas, parce que, en réalité, est-ce que j'ai perdu quelqu'un là? Vous êtes là? Oui, ils ont l'air d'être. Vous êtes là? Pélomi et Khan? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça doit être, c'est Thierry qui essaie de se brancher là, visiblement. Non, mais ça va, je vois que c'est rouge là, c'est. Qualité du son, qualité des appels. Nous. Il ne fait pas la connexion, je ne sais pas. Je ne peux rien faire. Alors, hein, vous êtes là? Occupé. Ils sont occupés. Je les ai appelés, je ne sais pas comment. Hein? Vous êtes là, Khan?
Oui, ça fait arrêter tout seul, maintenant ça fonctionne à nouveau.
Je vous ai appelé, c'est pour ça. Et Bellomi, tu es là?
Oui.
C'est bien. Comment ça se fait que je ne vois pas ta photo? Ah, peut-être c'est toi, là. Ah oui, il est là. Oui, alors, le Gaon explique qu'en réalité, dans la promesse qu'Abraham Avinu a faite, qu'Hachem a faite à un moment à Abraham Avinu, il lui a dit, le Gam est à Goy, le peuple qui aura réduit les Bnei Israël en esclavage, donne un offrir, je le jugerai. Et seulement après, c'est marqué « Va'achrechen yetsu b'chouch gadol ». Le Gaon dit qu'en vérité, quand on est sorti d'Égypte, les Égyptiens n'avaient pas encore été complètement jugés. Parce qu'ils n'avaient pas été jugés sur le fait d'avoir jeté les garçons dans le Nil. Et le jugement sur le Nil, c'est la noyade des Égyptiens dans la mer. Et c'est seulement à ce moment-là que dit le verset, « Va'acharechen yitzu b'chouch gadol ». La vraie sortie d'Égypte, dit le Gaon, c'est seulement après Kriat Yamsouf, et à Kriat Yamsouf, il y a eu les Bnei Israël ont ramassé tout le butin de l'armée égyptienne. C'était beaucoup plus que... Et donc là, pourquoi c'est marqué chez le Yomar Tzadik? Alors le Gaon dit, c'est pour que, si Abraham se trompe, et qu'il s'imagine que la sortie d'Égypte, c'est la fin, et qu'il voit qu'on ne sort pas avec un butin, mais c'est pour qu'il ne dise pas, même dans son, qu'il ne puisse même pas se tromper. Quand on aura passé la mer, il comprendra bien que c'était ça la vraie sortie. Mais dans l'entretemps, là, il y a une semaine, entre la sortie d'Égypte et Kriat Yamsouf, il y a 6 jours, quoi. Et pendant ce temps-là, Abraham pourrait penser que je n'ai pas accompli. À tort, parce que il n'aurait pas intégré que la sortie d'Égypte, la vraie sortie, c'est seulement après Kriat Yamsouf. Donc ça, c'est seulement pour lui. C'est pour qu'il ne le dise pas, lui. Parce que dans l'absolu, il n'y a rien à dire. Moi, je tiens ma parole. Il y aura le Kriat Yamsouf et le butin après la noyade de l'armée égyptienne. Ils auront ce Rouge Gadol, ce grand butin. Donc là, on voit que Hachem tient sa parole. Donc ici, la justice, elle devrait passer sans qu'on amène l'argument pour qu'il ne puisse pas le dire. Parce que ça affaiblit la chose. Ça fait comme si C'est, il faut seulement leur, pas leur donner pitron de paix, c'est marqué. Pitron de paix, ça veut dire qu'on ne leur laisse pas ouvrir la bouche. On leur enlève l'argument. Alors que dans l'absolu, c'est la justice, c'est un problème de justice ou d'injustice si Hachem ne traite pas les Oumot HaOlam sur le même plan que les Bnei Israël. Et donc cette question-là, elle n'est pas répondue. Alors on pourra dire que à partir du moment où ils sont idolâtres, on pourrait dire à partir du moment où ils sont idolâtres, alors ils se sont disqualifiés. Hachem leur aurait donné, mais à partir du moment où ils sont idolâtres, ils se sont disqualifiés. Mais c'est un peu étonnant que la question ici, en fait, n'est pas immédiatement posée, puisque c'est présenté comme Mishpat. Le problème, c'est ce pasouk dans Azinu, qui est un problème de Mishpat. Mais on va laisser ça pour l'instant. Vayar Balak ben Tzippor, ma Ra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a bepouranut che atida lavo al Israël, mikol sonav, che kulam ayu baim bemilchamot ou beshibud, che'en yicholim la'amod bahen, veze ke adam che motzi davar ve'oker uma shlema. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Balak, qu'est-ce qu'il... je vais lire la totalité d'abord. Vayar Balak, Noach la Rechaim chez Yusumin. Il aurait mieux valu pour les Rechaim qu'ils soient aveugles. Chez Enehem Mevim Ra'al Aolam, parce que leurs yeux amènent du mal dans le monde. Vedora Mabul Ktiv, Vayiru Venei Elohim. Donc ils ont vu les filles, etc. Urti vayar Cham avi Kenan. Cham a vu la nudité de Noach. Urti vayiru ota Sarai Paro. Les princes de Paro ont vu Sarah, ils l'ont raptée. Vechen kulam. Vekan vayar Balak. Ici aussi, c'est marqué vayar Balak. Vayar Balak. Machal le Melech. Comment est-ce qu'il faut l'entendre ici? Machal le Melech chez Oshiv Shomrim, le Shomro Minagaïs. C'est un roi qui a mis des gardiens, bon, il avait sa garde rapprochée pour le protéger de l'armée, en fait. Vayabatuach aleem chez Yugiborim. Il était certain que ces gens de sa garde rapprochée étaient des Giborim, c'est des gens forts. Avant Agaïs, vers Agan, l'armée a passé et il les a tués. Vayam ratet alatsmo. Et donc lui maintenant, le roi, il est là tout seul. Il était mort de trouille. Vechen Balak, Ram, Maasu, Besichon, Veog, Shayam, Ale, Alehem, Sachar, le Shomro. Balak, en fait, il payait Sichon et Og pour le protéger. Il soutenait les royaumes de Sichon et de Og pour le protéger. Venitiare meatsmo. Et tout à coup, il a eu très très peur. Quand il a vu qu'ils avaient été balayés. Ve'od shera nisim shel nachale Arnon. Et en plus, il a vu les nisim, les miracles de nachale Arnon. On va voir. Justement, ce que sont effectivement ces nisim. Pourquoi ils lui ont fait particulièrement peur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on dit qu'il y a deux choses. Enfin, on dit deux choses. Balak, il a été encouragé parce qu'il a vu que tous les ennemis d'Israël, il a vu tout ce que les Israël, tout que les ennemis d'Israël allaient lui faire, tous les réductions en esclavage, tous les galouillotes, etc. Et du coup, il a pensé que, bon, il s'est dit, ben je pourrais aussi. Il a vu tous les autres qui pouvaient, il s'est dit, je veux aussi pouvoir. Ça, c'est le début du Midrash. Et après, le Midrash dit, il a vu, mais en fait, c'est sa vision, le fait qu'il ait vu, ça a amené du malheur dans le monde. Donc, s'il n'avait pas vu tout cela, il n'aurait pas osé, il ne se serait pas mêlé de cette affaire, il se serait tenu tranquille. Et il dit, tous les ennuis qu'on a eus, c'est parce que les gens ont vu et ils ont mal vu. Ils ont mal évalué la chose. Ils n'ont pas su interpréter ce qu'ils voyaient. Ils ont vu et ils se sont imaginés que d'avoir vu la chose, ça leur donnait le pouvoir sur la chose. Ils pouvaient faire la chose eux-mêmes aussi, ou bien que la chose était en leur pouvoir du fait qu'ils l'ont vu. Et ici c'est Balak. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a mal vu. Il a vu qu'il y avait un danger. Il a cru qu'il avait pris les bonnes, qu'il avait choisi la bonne stratégie pour se protéger. Et quand il a vu qu'il s'était complètement trompé, il a paniqué complètement. Et il ne savait plus quoi faire. Et c'est dans ce moment où il ne sait plus quoi faire qu'il va aller consulter, il va aller chercher Bilam. Vous avez le Matnat Kohuna en bas de la page, dans la colonne de gauche, au milieu. Mara'a, on dit, ou bachav pour anout, lavo bo à l'Israël, yoter mima sheba alehem, mikol sonehem. Il a choisi quelque chose, il a voulu attaquer, il est venu Israël, si vous voulez, plus fortement que tout ce qu'il a vu qu'on allait faire par la suite. Il a vu les ennuis que les différents peuples allaient faire au venu Israël, et lui, à ce moment-là, ce Midrash-là, le Matnat Kohuna, il dit que ce qu'il a voulu faire, c'est plus que ce que il a vu faire, qu'il a vu par sa vision, lui il a voulu faire plus. Et on a dit, Vézé ke Adam shemotsi davar veoker uma shlema. Lui il a expliqué, shemotsi davar, klomar klala, ve dibur bealma. Il a essayé avec sa klala et avec sa parole. Il a voulu faire plus de mal que tout le mal que les autres allaient faire. Il voulait être oker ou mashlema. Il voulait être oker un peuple entier. Oui, c'est intéressant parce que Ici, on nous présente qui est-ce qui veut arracher le peuple, qui veut détruire le peuple. On parle de Balak ici. Mais dans le paragraphe précédent, à la fin du paragraphe, les trois lignes avant la fin, c'est marqué Amad la Akor Umashlema, exactement la même chose. Et là, on parle de Bilam. On parle du prophète, on ne parle pas de Balak. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces deux, ce midrash, il les met exactement sur le même plan, quoi. Ils se sont vraiment trouvés complètement en phase, l'un et l'autre. Balak comme Bilam. Le Midrash, il fait cette remarque, c'est que Noach la Rechaim, il vaudrait mieux pour les Rechaim qu'ils aient été aveugles. C'est en fait, c'est leur façon de voir qui les a induits en erreur. Parce que le problème, c'est toujours, une fois qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a donné comme exemple ? Dor HaMaboul, la génération du déluge. Ils ont vu Bnei Elohim. Non. Ici, on parle de ces espèces d'anges qui viennent et qui veulent prendre possession des femmes, des femmes humaines, quoi. Et ça, c'est Gilui Arayot, c'est une dépravation. Dans les mœurs, parce que c'était... Parce que depuis le début, depuis très longtemps, les gens avaient pris des mesures, Rashi rapporte, ils s'étaient limités par rapport à toutes les conduites déviantes, etc., possibles. Ils avaient pris des décisions pour s'interdire certaines choses qui formellement leur étaient permises, mais... Et là, tout à coup, il y a eu cette irruption de ces Bnei Elohim qui arrivent et qui... Même chose, on voit que Ham, le père de Cnan, quand il voit Noach, son père, dénudé, etc., ça tourne très très mal. Il ne sait pas gérer ce qu'il a vu, quoi. C'était gérable. La preuve, c'est que ses frères ont su comment le gérer. Les frères sont... Ils ont pris cette fameuse couverture et ils sont... marcher en arrière, etc. Donc c'était gérable. Bon, mais en fait, c'est les Rechaïm, donc leur façon de voir, si ça dépend pourquoi tu veux voir, comment tu décides de voir, d'observer les choses. Même chose, les Saré Paro, les princes de Paro, les sbires de Paro, ils voient une femme, bon, ils l'apprennent. On apprend pour Paro, ils l'apprennent. Enfin, on ne s'occupe pas de savoir si elle est d'accord ou pas d'accord, si elle est femme mariée ou pas, peu importe. Ren Kulam. Et ici, on dit la même chose. Voyard Balak. Et alors, comme toujours, on a affaire ici à un machal. Mais le machal, c'est curieux, c'est un machal pour un roi, machal d'un roi pour un roi. Balak, c'est un roi. On dit machal le meler. Ça ressemble à un meler. Chez Oshiv Shomrim, le Shomro, Minagais. Il a peur d'une armée qui risque de lui faire du mal, de prendre le pouvoir, etc. Donc, il a une espèce de garde rapprochée, dont il pense que ce sont des Giborim, et qui vont le protéger. Et il s'aperçoit que quand l'armée passe, ben l'armée passe, et eux, ils ne le protègent pas du tout, ils ne sont pas capables de le protéger. Et du coup, il se met à trembler. Même chose pour Balak. Il a vu ce que Moshé Assou, ce qu'on a fait, ce qu'Hachem a fait, disons, à Sichon et à Og, alors que Shaya Maale Alem Sachar le Shomro. C'est la nouveauté. Il les payait comme gardiens. Il soutenait le régime de Og et de Sichon. Condition qu'ils c'était des soi-disant des guerriers. Ils allaient, lui, il était un roi qui n'avait pas d'une armée importante, donc il les payait. Et il s'aperçoit que ils ont été balayés complètement. Et là aussi, je me suis demandé, comme toujours, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un machal là ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le machal que dans ce qui est dit là ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la parabole ? Parabole d'un roi qui, etc. C'est exactement ce qu'il y a chez Balak, non ?
Gaï, c'est négatif, non ?
Pardon ?
Gaï, c'est négatif ou pas comme...
Gaï, c'est une armée qui, probablement, qui se paye sur l'habitant et sur le...
Du coup, là, les Hébreux sont comparés à des Gaïs.
Oui, c'est... Il s'est présenté comme... mais c'est ça, c'est ce que Balak va dire à Bilam. Quand il l'appelle, il lui dit... Ata ilachachu akahal et kol svivoteinu kilcho hachor et tirek asade. Ils vont nous dévaster complètement comme le taureau ou les... mangent tous les légumes de toute la verdure du champ. Ils vont nous brouter complètement, on n'aura plus rien. Donc c'est la panique qui se... Pour eux, c'est... Ils auraient pu aussi bien prendre des sauterelles ou des criquets ou n'importe quoi. Ils vont nous raser complètement tout ce qu'on a. C'est le gaïs. Effectivement, ils sont comparés à ça. Mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on a de plus à avoir un... C'est toujours le même problème, avoir un machal ici. Il faut toujours chercher qu'est-ce que le machal dit que ne dit pas le Nimshal, que ce qu'on ne dit pas sur Balak. Alors de Balak, il est dit qu'il payait Sichon et Og pour le garder. Donc là, si on regarde, c'est comme si Sichon et Og étaient cette fameuse garde rapprochée du roi. Le roi, il a une garde rapprochée et maintenant le... Chez Balak, il n'est pas dit, on dit seulement « Mais Assou, Sichon ve Og » ce qu'ils ont fait avec Sichon et Og, et comme fait remarquer Frédéric, c'est la différence, enfin le point important ici, c'est que il les voit comme une armée qui, comme presque des bandes d'armées qui vont se répandre et qui tuent sur leur passage, etc. C'est des... Et donc, ce qu'on veut dire là, je crois, c'est que là, Balak, il a vu plus loin que ce qu'il voyait, quoi. Il n'a pas tenu compte de ce que Og et Sichon avaient attaqué Israël. Et que, en riposte, ils ont été balayés. Ils ont été détruits. Mais lui, il a vu les choses comme si, en fait, on ne s'occupe pas de la cause pour laquelle, de la raison pour laquelle Israël attaquent Sichon et Og. On fait comme s'ils attaquaient gratuitement, comme s'ils avaient attaqué comme une bande de pillards. C'est ça le machal. C'est-à-dire que lui, il a vu Balak, il a vu ça comme ça. Ça veut dire il a décidé de voir les choses comme ça. C'est en ce sens-là qu'on dit qu'il aurait mieux valu qu'il soit aveugle, parce que s'il a... Au fond, ça veut dire qu'il faut savoir voir. Il y a un problème, c'est le premier problème de ce Midrash, me semble-t-il, c'est qu'il s'agit de savoir voir, mais peut-être que dans le premier paragraphe, c'était comme ça aussi. D'accord ? Ce qu'on reproche, c'est de ne pas voir toute la scène. Si Nebuchadnezzar avait vu tout ce... S'il avait pris conscience complètement de tout ce qui a été fait pour lui, ou que si les Neviim, ou si Aman s'était rendu compte que ce n'était pas normal, qu'il n'est pas dans une position complètement normale. Il ne faut pas oublier que Aman, il est d'Amalek, et Amalek, c'est un sémite. Et il est le premier personnage à la cour de Perse. Les Perses, ce n'est pas des sémites. D'une certaine manière, c'est anormal que quelqu'un qui n'est pas du même peuple, quelque part, que ce soit lui le plus noble, qu'il soit le plus riche, ça pourrait encore passer, mais le plus noble, le premier à parler, celui qui va donner des conseils au roi, etc., et le roi va le suivre, Achashverosh va suivre son conseil. C'est lui qui va permettre à Achashverosh de tuer Vashti. C'est Aman. Comment se fait-il que... Donc, il n'a pas tenu compte du statut absolument extraordinaire qui était le sien, et de cette richesse fabuleuse. D'accord, il a pensé que c'était normal, que c'était lui. Donc, c'est une façon de voir sans tenir compte de tous les éléments. C'est la faute de Balak ici. Balak voit que Israël a... Ils ont complètement battu à plate couture Og et Sichon, mais il n'a pas tenu compte de ce... Donc il l'interprète comme, moi, si je ne leur fais rien, ils vont complètement m'écraser, ils vont me réduire à rien du tout. Alors que ce n'était pas ça le problème. Si tu ne bouges pas, si tu ne les attaques pas, ils vont rien te faire. Donc c'est ça le problème, probablement, qui est l'évaluation de la situation, le regard qu'on porte sur la situation. C'est ça, me semble-t-il, le problème que le Midrash ici soulève. Si vous voulez, l'antisémitisme, c'est pas qui pensait pendant tout, il n'y a pas si longtemps, c'était pas Chahir de les attaquer, de prendre le pouvoir peut-être, avoir du pouvoir par l'argent et ça, mais c'est pas attaquer. Au sens de... C'est sûrement un argument qui font valoir à ce niveau-là. Mais il a peur. Sa peur, ce qui est intéressant, c'est que sa peur, elle ne vient que de sa mauvaise interprétation. Oui, non, mais non, c'est d'abord, il interprète. Après, il ne comprend pas. À la limite, c'est même difficile à comprendre qu'il n'ait pas tenu compte de cela. Il connaissait la situation. Il sait bien que. Ils ont attaqué Israël, que Israël effectivement les a battus. Il a oublié qu'ils ont attaqué Israël. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel problème ? Ici, même Israël ne les avait pas attaqués en premier. C'est même De Gaulle, il aurait été d'accord. Il faut laisser. Si on laisse les autres attaquer d'abord, on peut se défendre, on a le droit, mais il faut d'abord les laisser attaquer. Là, ils ont attaqué d'abord.
C'est ce qu'a fait un peu Israël pendant les guerres. Ils se sont laissés attaquer.
Ils ne sont pas laissés attaquer. Il y a des fois, comme disait De Gaulle, là, ils sont pas laissés attaquer, ils ont attaqué d'abord. Parce que la question à savoir, c'est que des fois, l'avantage de l'attaque, ils ont été agressés d'abord, mais ils n'ont pas été attaqués à ce moment-là. C'est ça tout le problème. Enfin, c'est pas tout le problème, c'est une partie du problème en tout cas. Mais il me semble que c'est ça qui semble se dégager de... Je vois se dégager de ce début de Midrash. Quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer ? Ok, on va s'arrêter là.
Putain.
Ok. Thank you.